Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Même les pays les plus puissants savent qu'ils doivent travailler avec les organisations internationales pour atteindre leur but.
S'il insiste sur le respect de la légalité et le cadre de la décision, c'est parce que ce début d'année 2003, le monde retient son souffle. La tension est à son comble. Depuis plus d'un an, après les attaques sur l'Afghanistan, en représailles aux attentats du 11 septembre 2001, la Maison-Blanche a décidé de faire tomber le régime de Saddam Hussein, qu'elle accuse de développer des armes de destruction massive. Malgré les efforts de Kofi Annan pour empêcher une nouvelle guerre en Irak, malgré l'intense balai diplomatique qu'il déploie à la fois pour pousser le président irakien à laisser les inspecteurs de l'ONU procéder aux vérifications sur son territoire, mais également à pousser les grandes nations de convaincre le président George W. Bush d'oublier l'option militaire, Washington semble décidé à en découdre. Entre le président George W. Bush et le secrétaire général Kofi Annan, désormais perçu comme un obstacle à son projet de renverser Saddam Hussein, ce n'est plus vraiment la grande amitié.
Il était ami, disons, on s'aimait bien, mais sur les plans politiques, on avait des visions différentes.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kofi Annan.
Jour après jour, les soldats américains font leur pactage pour gagner le golfe arabo-persique. Plus rien, semble-t-il, ne peut arrêter le président Bush, surtout pas les réserves des alliés traditionnels des États-Unis et notamment des Français.
Combien de temps faut-il pour voir clairement que Saddam ne désarme pas ? Le monde a dit d'une seule voix, y compris les Français, qu'il doit désarmer, et il ne désarme pas.
Tant qu'on peut avancer par la coopération avec les inspecteurs, il n'y a aucune raison de choisir la plus mauvaise des solutions, c'est-à-dire l'intervention militaire.
Il y a eu des échanges assez vifs dans les couloirs du Conseil, et cet après-midi, au sommet franco-allemand de Versailles, le président Chirac revient à la charge.
Je pense bien sûr à l'Irak.
C'est là un défi majeur. La guerre n'est pas inévitable.
La France agace décidément Washington. L'Allemagne est elle aussi opposée à la guerre. Mais c'est Paris qui dispose de la dernière carte pour contrer les États-Unis, celle d'un veto éventuel à l'ONU.
En ce début d'année 2003, malgré les renseignements, les rapports d'experts et d'inspecteurs des Nations Unies qui montrent que l'Irak de Saddam Hussein ne développe pas d'armes de destruction massive, le président américain ne recule toujours pas. Pourtant, Saddam Hussein, sous pression, a même ouvert son palais ce 25 janvier 2003 aux inspecteurs de l'ONU. Mais, discrètement, Kofi Annan discute, négocie auprès de certaines puissances afin qu'elles fassent infléchir la position américaine.
Si les Nations Unies veulent apporter une réponse appropriée, elles doivent faire preuve de fermeté envers l'Irak. Et elles doivent l'obliger à respecter la résolution 1481 et les autres.
La Grande-Bretagne a quant à elle répété que le temps était compté et annoncé le déploiement de 26 000 soldats. Un déploiement qui, aux yeux de la France, semble totalement prématuré. Dans une semaine, les inspecteurs en désarmement communiqueront leur rapport. Avant même d'en connaître le contenu, les membres du Conseil de sécurité affichent déjà assez nettement leur divergence.
Le 20 janvier 2003, le gouvernement irakien signe avec les inspecteurs de l'ONU, Hans Blix et Mohamed El Baradei, un accord en 10 points afin de faciliter la mission des inspecteurs. Le même jour, devant le Conseil de sécurité, Dominique de Villepin, le ministre français des Affaires étrangères, déclare dans un discours remarqué que l'intervention militaire serait la pire des solutions.
À ceux qui se demandent, avec angoisse, quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Ce discours du ministre français Dominique de Villepin, qui précède celui de Jacques Chirac à la télévision américaine le 16 mars 2003, marquera le début d'une campagne anti-française menée par plusieurs membres du Parti républicain.
C'est Kofi Annan en personne qui l'annonce ce matin. L'Irak accepte le retour des inspecteurs en désarmement, et ce, sans condition. Un revirement spectaculaire annoncé par une lettre signée de la main du ministre irakien des Affaires étrangères et adressée au secrétaire général des Nations Unies. Pour Washington, ce revirement n'est qu'une manœuvre tactique. Bagdad voit dans cette réaction plutôt glaciale la preuve que les Américains veulent bel et bien la guerre.
L'unique but de tout ça, c'est le pétrole. Et pour les Américains, il n'y a qu'une seule façon de contrôler notre pétrole, c'est de détruire l'Irak en tant que nation.
Saddam Hussein a en tout cas réussi à prendre les États-Unis à contre-pied et à les isoler au moins momentanément de leurs alliés. La France s'est ainsi prudemment félicitée de la décision irakienne.
Maintenant, prendre Saddam Hussein au mot. Les inspecteurs doivent être envoyés en Irak, ils doivent pouvoir travailler sans entrave. Si tout cela était confirmé, si tout cela était rendu possible, cela montrerait à quel point la communauté internationale peut obtenir des résultats quand elle est unie.
La Russie s'est dit cet après-midi hostile à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité contre l'Irak, estimant que le cadre juridique pour le retour des inspecteurs existe déjà. Les États-Unis, eux, s'en tiennent à une ligne dure, martelée une fois de plus par George Bush.
Après 11 années sans qu'il ait tenu ses promesses, il est temps pour nous de nous attaquer aux véritables menaces. Il est temps pour nous de nous occuper de Saddam Hussein. Il est temps pour nous de renforcer la paix.
Malgré l'annonce de l'Irak de mieux coopérer, Washington continue de hausser le ton. Et si le secrétaire général de l'ONU se fait plus discret, c'est parce qu'il sait qu'il a rallié un certain nombre de puissances à sa position anti-guerre. Mais les Américains ne reculent pas. Le 5 février 2003, Colin Powell, le secrétaire d'État américain, est devant le Conseil de sécurité. Il vient convaincre les opinions publiques mondiales de la légitimité d'une action militaire contre l'Irak en s'appuyant sur des photos satellites et des écoutes téléphoniques. Il brandit et agite un fiole supposé contenir de l'anthrax.
La gravité de ce moment n'a d'égal que la gravité de la menace que les armes de destruction massive de l'Irak représentent pour le monde. Permettez-moi maintenant de parler de ces programmes d'armes meurtrières et d'expliquer pourquoi ils constituent un danger réel et présent pour la région et pour le monde. Premièrement, les armes biologiques. Nous avons souvent parlé d'armes biologiques. En guise d'introduction et d'historique, je pense que je n'ai que trois remarques rapides à présenter. Tout d'abord, souvenez-vous qu'il a fallu quatre longues et frustrantes années à la CSNU avant que l'Irak admette avoir des armes biologiques. Deuxièmement, lorsqu'en 1995, l'Irak a finalement admis qu'il disposait de ses armes, les quantités annoncées étaient gigantesques. Moins d'une cuillère à thé d'anthrax sec, un peu plus de cette quantité, moins d'une cuillère à thé d'anthrax sec dans une enveloppe avait fait fermer le Sénat des États-Unis à l'automne 2001. Cela avait forcé plusieurs centaines de personnes à se soumettre à un traitement médical d'urgence et avait causé la mort de deux employés de la poste. Tout ça à cause d'une quantité à peu près équivalente à celle contenue dans une enveloppe. L'Irak a déclaré posséder 8500 litres d'anthrax. Mais la commission spéciale estime que Saddam Hussein aurait pu produire 25 000 litres. Cette quantité, si elle venait à être concentrée dans cette forme sèche, pourrait représenter l'équivalent de dizaines et de dizaines de milliers de cuillères à café.
Colin Powell insiste. Chacune des déclarations que je fais aujourd'hui s'appuie sur des sources solides. Pourtant, tout est bidon. Il s'agit de fausses preuves. Une tache dans ma carrière, reconnaîtra-t-il quelques années plus tard. Voici ce qu'en disait Kofi Annan quelques années après.
Mais peut-être lui aussi, il était manipulé.
C'est ça.
Parce que c'est très difficile quand on fait partie d'une équipe. Et les renseignements américains viennent dire c'est les meilleures informations qu'on a. On est convaincu, on va aller comme gouvernement, il faut aller présenter ça au Conseil de sécurité, c'est difficile.
La France de Jacques Chirac appelle à la prudence. Le 20 mars 2003, malgré l'hostilité de la France, de la Russie et de la Chine, Washington décide de lancer l'opération Iraq Freedom, sans l'aval du Conseil de sécurité.
En ce moment, les forces américaines et de la coalition sont dans les premières étapes d'une large opération militaire pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple et défendre le monde contre un grave danger. À tous les hommes et les femmes des forces armées américaines déployées en ce moment au Moyen-Orient, la paix de notre monde en tourment et les espoirs des populations oppressées sont entre vos mains.
Merci de votre attention. Des bombardements quasiment ininterrompus sur Bagdad. Le ministère de l'information irakien parle de centaines de blessés et de morts civils. L'état-major américain certifie que seuls les postes de commandement sont visés.
Un épais nuage de fumée noire enveloppe Bagdad de jour comme de nuit. Au loin, on peut voir les cibles touchées par les bombes. Certains quartiers sont rongés par les flammes. Au 13e jour de l'offensive lancée contre le régime irakien, la ville est pilonnée en permanence.
Kofi Annan n'est pas parvenu à empêcher la guerre. Il ne peut que constater la détermination de Washington. Il n'a eu que le temps d'évacuer les inspecteurs des Nations Unies de l'Irak.
Nous devons tous sentir que c'est une triste journée pour les Nations Unies et la communauté internationale.
En effet, puisque la planète entière va assister impuissant au déluge de feu qui s'abat sur l'Irak. Une guerre éclair qui aboutit en quelques jours à la chute du régime de Saddam Hussein, mais plongera durablement l'Irak dans le chaos. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein est débusqué dans sa cachette près des Tikrit, barbu, hirsute, méconnaissable. Il sera exécuté par pendaison un an plus tard. Seulement personne ne trouve les fameuses armes de destruction massive qui ont été données comme argument pour envahir le pays. Kofi Annan sort de sa réserve et exprime un point de vue. Dans une interview diffusée par le service mondial de la BBC, il fait savoir que la décision américaine d'envahir l'Irak en 2003 était illégale. Je suis l'un de ceux qui croient qu'il aurait dû y avoir une deuxième résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour donner le feu vert à l'invasion de l'Irak par les États-Unis qui a renversé le régime de Saddam Hussein. J'ai indiqué que cela n'était pas en conformité avec la Charte des Nations Unies de notre point de vue et de celui de la Charte. Fin de citation. Il a en outre estimé qu'il était improbable, étant donné l'actuelle vague de violence et des troubles en Irak, que ce pays soit capable d'organiser des élections crédibles en janvier 2005, comme annoncé. Il s'est néanmoins voulu conciliant en assurant que les États-Unis ainsi que d'autres membres de l'ONU ont tiré des enseignements de ces événements.
Je voulais vous demander, pensez-vous que la résolution qui a été adoptée sur l'Irak avant la guerre a effectivement donné l'autorisation légale de faire ce qui a été fait?
Eh bien, je suis de ceux qui croient qu'il aurait dû y avoir une deuxième résolution parce que le Conseil de sécurité a indiqué que si l'Irak ne se conformait pas, il y aurait des conséquences. Mais il appartenait ensuite au Conseil de sécurité d'approuver ou de déterminer quelles devaient être ces conséquences.
Donc, vous ne pensez pas qu'il y avait une autorité légale pour la guerre?
J'ai dit clairement que ce n'était pas conforme au Conseil de sécurité, à la Charte des Nations Unies.
C'était illégal.
Oui, si vous le souhaitez.
C'était illégal.
Oui, j'ai indiqué qu'il n'est pas conforme à la Charte des Nations Unies. De notre point de vue et du point de vue de la Charte, c'était illégal.
En réalité, si pendant qu'il est encore à la tête de l'ONU, il ne va pas plus loin dans la critique, Kofi Annan sera plus explicite sur les raisons de cette urgence des États-Unis à frapper l'Irak quelques années après.
C'était une guerre qu'on pourrait éviter parce que les bases même pour la guerre n'existaient pas. Si on avait donné un peu de temps aux inspecteurs des Nations Unies, on aurait pu comprendre qu'il ne fallait pas aller en Irak.
On se souvient de Colin Powell montrant « j'ai la preuve, j'ai la preuve ». Et vous, vous n'y croyez pas, vous nous racontez dans le livre. Vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas.
J'étais sceptique parce que les Américains ne m'étaient pas allés aussi avant les discours de Colin Powell. Et franchement, quand des inspecteurs étaient en train de faire le travail, ce qu'il fallait, c'est de les donner un peu plus de temps.
Mais d'avoir osé le dire après cette tragédie qui va durablement déstabiliser l'Irak va susciter d'autres contrariétés, d'autres attaques à Kofi Annan. Ahmedou Ould Abdallah, son ami.
Après la guerre, je me trouvais à Paris en septembre. J'étais à Paris et je vois la une de Financial Times, une déclaration où Kofi Annan disait que la guerre est illégale. Et j'ai attendu jusqu'à 3 heures de l'après-midi pour être sûr qu'il est au bureau à 9 heures de New York pour lui dire comment tu as pu dire, on va te rendre la vie infernale, comment tu as pu dire que la guerre est illégale. Donc, c'est vrai, il n'aimait pas cette guerre, il pensait qu'on pouvait l'éviter. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette déclaration. Et ça a fâché tout l'entourage de Bush Junior, et ça a été suivi par une période de 18 mois infernale pour le secrétaire général. Fouillé dans ses poubelles, dans ceux de sa famille.
D'avoir contrarié les États-Unis dans leur projet, d'oser parler de corruption, Kofi Annan va connaître de gros embêtements. L'ONU va être secouée par l'un des plus gros scandales financiers de son histoire. Tout commence par la révélation d'un journal américain.
There are now allegations of widespread corruption.
Korruption, mangelnde Aufklärung über den Vereinten Nationen hängt ein Schleier.
Jamais à l'ONU on avait connu un tel scandale.
The UN of turning a blind eye to corruption.
On crie au scandale à propos d'un programme humanitaire destiné à soulager la population irakienne soumise à un terrible embargo.
C'est quoi l'opération pétrole contre nourriture qui secoue la maison de verre? Elle devait permettre au régime irakien de vendre du brut en échange des biens de consommation pour atténuer les effets de l'embargo sur les civils irakiens. Mis en place en 1996, le programme pétrole contre nourriture autorise Bagdad à vendre du brut tous les 6 mois à hauteur de 2 milliards de dollars. L'exportation du pétrole, l'utilisation de revenus et la distribution des vivres et des médicaments étaient placées sous la supervision de l'ONU. Toutes les opérations étaient opérées sur un compte séquestre ouvert par les Nations Unies à la BNP à New York. Sur chaque milliard de dollars de pétrole vendu, 300 millions devaient être alloués aux victimes de la guerre du Golfe. 20 à 30 autres millions devaient couvrir les coûts du désarmement de l'Irak et 130 à 150 millions devaient servir à aider les populations kurdes du nord de l'Irak. En parallèle de la filière légale qui profite à 3900 entreprises, le gouvernement irakien va progressivement mettre en place un système de corruption à son profit reposant sur des rétrocommissions et des surcharges renvoyées vers l'État irakien. Dans le même temps, Saddam Hussein délivre des bons de pétrole à des personnalités dont il attend des activités de lobbying pour la levée des sanctions frappant l'Irak. Le programme pétrole contre nourriture, qui devait s'achever en novembre 2003, s'arrête brutalement au mois de mars de cette même année lorsque l'offensive américaine commence. Dès le démarrage de l'offensive, le Trésor américain traque les milliards détournés sous la dictature. Tout au long de l'année 2004, Kofi Annan est victime d'une violente campagne de dénigrement visant à provoquer sa démission. Son fils, Kojo, est soupçonné de conflit d'intérêts en tant qu'employé de la société Cotecna, chargée de la vérification des produits entrant en Irak dès la fin 1998. Comment va-t-il se sortir de ce mauvais pas ? Était-il, Kofi Annan, au courant de toute cette énorme machine planétaire de corruption ? Quelles conséquences pour la suite de sa carrière à la tête de l'ONU ? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ce prix honore les Nations Unies, mais c'est aussi un défi pour nous. Un défi pour faire plus et pour faire mieux, pour ne pas nous endormir sur nos lauriers.
Ce prix Nobel, qui en 2001 honore son travail et celui de l'ONU, dont il est le secrétaire général, semble bien loin en ce début d'année 2004, au moment où l'institution et lui-même font la une des journaux du monde entier, après la révélation d'un journal américain sur l'énorme scandale de corruption qui a cours dans la Maison de Verre et à l'extérieur. Kofi Annan, qui s'est mobilisé, qui s'est battu contre la volonté des États-Unis d'attaquer l'Irak de Saddam Hussein, est directement visé par les accusations de corruption. Son fils Kojo est soupçonné de conflit d'intérêts en tant qu'employé de la société Cotecna, chargé de la vérification des produits entrant en Irak dès fin 1998. L'homme intègre, le visage de la diplomatie et de la paix, doit se justifier ou démissionner. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kofi Annan.
En ce moment, les forces américaines et de la coalition sont dans les premières étapes d'une large opération militaire pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple et défendre le monde contre un grave danger.
To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East.
À tous les hommes et les femmes des forces armées américaines déployées en ce moment au Moyen-Orient, la paix de notre monde en tourment et les espoirs des populations oppressées sont entre vos mains.
Ce 20 mars 2003, les États-Unis d'Amérique, sans attendre le feu vert du Conseil de sécurité, qui n'est pas acquis à leur projet de guerre, ont décidé de lancer leurs attaques sur l'Irak de Saddam Hussein. C'est l'opération Freedom Iraq. Kofi Annan, qui a lutté de toutes ses forces, qui avec l'ONU a déployé tous les moyens, tous les artifices juridiques et diplomatiques pour empêcher cette issue, est déçu. C'est le jour le plus triste de sa carrière, comme il le fera savoir. Pour lui, cette guerre n'est pas légale.
C'était une guerre qu'on pourrait éviter parce que les bases même pour la guerre n'existaient pas. Si on avait donné un peu de temps aux inspecteurs des Nations Unies, on aurait pu comprendre qu'il ne fallait pas aller en Irak.
On se souvient de Colin Powell montrant « j'ai la preuve ». Et vous, vous n'y croyez pas, vous nous racontez dans le livre. Vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas.
J'étais sceptique parce que les Américains m'ont parlé aussi avant les discours de Colin Powell. Et franchement, quand des inspecteurs est en train de faire le travail, ce qu'il fallait, c'est de les donner un peu plus de temps.
Mais d'avoir osé le dire après cette tragédie qui va durablement déstabiliser l'Irak va susciter de sérieux problèmes à Kofi Annan. Ahmedou Ould Abdallah, son ami.
Après la guerre, je me trouvais à Paris en septembre. J'étais à Paris et je vois la une de Financial Times, une déclaration où Kofi Annan disait que la guerre est illégale. J'ai attendu jusqu'à 3 heures de l'après-midi pour être sûr qu'il est au bureau à 9 heures de New York pour lui dire comment tu as pu dire, un vétéran de la vie infernale, comment tu as pu dire que la guerre est illégale. Donc, c'est vrai, il n'aimait pas cette guerre, il pensait qu'on pouvait l'éviter. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette déclaration. Et ça a fâché tout l'entourage de Bush Junior, et ça a été suivi par une période de 18 mois infernale pour le secrétaire général. Fouillé dans ses poubelles, dans ceux de sa famille, et beaucoup de choses. Et je me souviens, une ministre britannique qui disait qu'on écoutait ses téléphones, qu'on écoutait les téléphones de Kofi Annan, dans tout. Ça a été une période extrêmement difficile. Vraiment, ça a été suivi par 18 mois terribles qui l'ont amené presque au bord de la démission. Il a dû faire partir tout son cabinet immédiat et remplacé par de nouveau donc Malcolm Brown, son ami depuis le Cambodge, qui est devenu son directeur de cabinet.
There are now allegations of widespread corruption.
Korruption, mangelnde Aufklärung über den Vereinten Nationen hängt ein Schleier.
The biggest corruption scandal in UN history.
Jamais à l'ONU on n'avait connu un tel scandale.
The UN of turning a blind eye to corruption.
Un scandale. Un scandale, me dit-on. Une corruption à l'échelle planétaire.
C'est le plus gros budget de l'histoire de l'ONU. Notre problème était comment dépenser l'argent assez vite.
On crie au scandale à propos d'un programme humanitaire destiné à soulager la population irakienne soumise à un terrible embargo.
Avec ce battage médiatique, c'est toute la planète qui, quelques instants, se détourne des traditionnels tragiques bulletins sur la guerre en Irak qui alimentaient quotidiennement les journaux pour s'intéresser à l'institution jusque-là présentée et perçue comme un modèle pour la paix et l'humanitaire dans le monde. L'ONU et son chef sont directement mis en cause dans ce scandale pétrole contre nourriture. Le programme mis en place pour atténuer les souffrances du peuple irakien aurait plutôt profité à Saddam Hussein, mais également à de nombreuses firmes internationales avec la complicité de certains hauts fonctionnaires des Nations Unies. Kofi Annan est dans le viseur. Surtout que son fils Kojo est soupçonné de conflit d'intérêts en tant qu'employé de la société Cotecna, chargé de la vérification des produits entrant en Irak dès fin 1998. Dès le lendemain de la révélation de ce scandale, Kofi Annan, profondément blessé, annonce la création d'une commission indépendante pour enquêter sur de possibles cas de corruption et de détournement de fonds dans la gestion de ce programme par l'ONU. Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale américaine, est choisi pour diriger l'enquête. Tout au long de l'année 2004, Kofi Annan est victime d'une violente campagne de dénigrement visant à provoquer sa démission. Ahmed Ould Abdallah, vous étiez un de ses proches.
Il fallait le fragiliser et donc il y a eu des déclarations, enfin des investigations ou des déclarations dans la presse que son fils était associé à une agence de trading sur le pétrole, une agence basée en Suisse, et qu'il aurait eu des contrats, ce qui est très vraisemblable. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que lui
c'était
est au
la
courant.
Réalité. C'est oui. Plutôt que lui n'était pas au courant. Il
probablement.
Qu'il, et il a été blanchi.
Il a été blanchi. Mmh. Et il a eu des collaborateurs qui ont été impliqués, enfin des fonctionnaires des Nations Unies qui s'occupaient de ce dossier. Il y a eu des gens de plusieurs pays qui ont été, si vous voulez, les sanctions contre l'Irak étaient terribles pour la population irakienne, mais n'étaient pas mauvaises pour beaucoup d'intermédiaires dans tous les domaines et de plusieurs pays, européens, moyen-orientaux surtout, d'Asie, d'Europe orientale.
En réalité, ce scandale pétrole contre nourriture va avoir des ramifications planétaires. Selon le rapport de la commission Volcker, près de 2200 entreprises originaires de 66 pays ont payé à Saddam Hussein des dessous de table, correspondant à 10% du montant de leur contrat dans le cadre du programme pétrole contre nourriture, dont la France a été une promotrice à l'ONU. Parmi les noms cités en France, on trouve un corisien proche de Jacques Chirac, Patrick Mougin, mais aussi Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur. Le gouvernement irakien aurait été généreux envers ces personnalités afin d'obtenir un soutien de la France sur la scène internationale. La BNP est également pointée du doigt. Banquier du programme, elle était, selon le rapport définitif de la commission Volcker, en position, je cite, « d'avoir une connaissance de première main des paiements illégaux réclamés par le régime de Saddam Hussein, mais n'aurait pas reconnu une responsabilité particulière d'informer l'ONU de manière adéquate ». En Belgique, une trentaine d'entreprises sont impliquées dans la fraude. Leurs responsables rejettent la faute sur des intérimaires au Moyen-Orient, ce qui rend les vérifications impossibles, l'Irak et la Jordanie ne participant pas à l'enquête. Le 3 janvier 2005, la commission de l'ONU met en cause le responsable du programme, Benon Zevan, coupable d'après elle d'un conflit, je cite, « d'intérêts sérieux et persistants ». Il est accusé d'avoir demandé aux Irakiens des droits d'achat de barils de pétrole pour le compte d'une petite société installée en Suisse, l'AMEP, Africa Middle East Petroleum, laquelle lui aurait reversé des contreparties.
La commission considère que les dirigeants de Cotecna et Kojo Annan ont agi pour dissimuler leurs relations financières, trompant le secrétaire général de l'ONU lui-même, d'autres responsables des Nations Unies ainsi que l'opinion publique.
Quant à Kofi Annan, la commission relève son manque de prudence envers les activités de son fils, sans toutefois l'accuser de corruption. Ce soir, le secrétaire général des Nations Unies se dit soulagé.
J'ai beaucoup souffert de ces accusations non fondées lancées à mon encontre. Alors, être disculpé par une commission indépendante représente pour moi un grand soulagement.
Kofi Annan a en outre annoncé qu'il ne démissionnerait pas de son poste, mais il risque tout de même d'être affaibli avant de se lancer dans la vaste réforme qu'il entend mener au sein des Nations Unies.
Après la publication de ce rapport, qui pointe aussi du doigt sa responsabilité dans cet immense scandale, Kofi Annan fait acte de contrition. Désireux de tourner la page, à moins d'une semaine du plus grand sommet de l'histoire de l'ONU, le secrétaire général accepte, sans protester, les conclusions d'une enquête sur les errements du programme onusien Pétrole contre nourriture. L'ancien patron de la réserve fédérale américaine, Paul Volcker, qui a présenté, mercredi 7 septembre 2005, son monumental rapport au Conseil de sécurité, juge Kofi Annan responsable, je cite, « d'erreurs de gestion substantielles ». Il ne serait toutefois pas coupable d'entorse à l'éthique ni de corruption. Le secrétaire général de l'ONU, imperméable, toutefois aux appels à la démission, déclare, je cite, « ce rapport me critique personnellement et j'accepte sa critique ». Le document de 900 pages montre que ces fautes sont partagées avec un conseil de sécurité divisé, une organisation trop bureaucratique, certains responsables corrompus et un régime irakien manipulateur. Selon Paul Volcker, en laissant trop de latitude à Saddam Hussein, le conseil de sécurité a, je cite, « fait un pacte avec le diable ». Les enquêteurs estiment qu'en 7 ans, Saddam Hussein a détourné près de 1,8 milliard de dollars sous le nez de l'ONU. Il percevait des dessous de table sur les ventes de pétrole et des biens de première nécessité. Le gros des revenus du dirigeant irakien était toutefois tiré de la contrebande de pétrole avec les pays voisins qui se faisaient au su et au vu de la communauté internationale. Parfois, avec l'approbation du gouvernement des États-Unis. Saddam Hussein aurait ainsi collecté 11 milliards de dollars. L'enquête affirme de son côté que l'ONU n'était pas équipée pour gérer un programme au sein duquel près de 100 milliards de dollars ont transité en 7 ans. Ni le Conseil de sécurité, ni les dirigeants du secrétariat n'avaient un contrôle global. En l'absence d'un système d'audit efficace, le navire serait parti à la dérive. Kofi Annan et son adjointe, Louise Fréchette, se seraient montrés réticents, je cite, à admettre leur responsabilité individuelle. Leur rapport au Conseil de sécurité omettait de mentionner les pratiques illégales qui se développaient. Leurs efforts pour mettre un terme aux violations des sanctions ont été minimes. Et aucun des deux n'a supervisé les activités de Benon Sevan, le patron du programme humanitaire, accusé de corruption. Kofi Annan est toutefois lavé des accusations les plus graves. Rien n'indique qu'il ait tenté de favoriser la Cotecna, une entreprise suisse qui employait son fils Kojo. Et rien ne prouve qu'il ait su que la Cotecna tentait d'obtenir un contrat onusien, qu'elle a finalement remporté. Les enquêteurs ont néanmoins estimé que Kofi Annan avait été négligent en n'ordonnant pas une enquête sérieuse en 1999 lorsque l'affaire a éclaté. À cette critique, Kofi Annan répond « Je regrette profondément cela ». Selon l'investigation, Kojo Annan a pour sa part tenté d'intervenir dans la passation de marché. Le rapport affirme par ailleurs que les autorités irakiennes ont tenté de s'acheter pour 1 million de dollars des faveurs de Boutros Boutros-Ghali, le prédécesseur de Kofi Annan, contre lequel aucune preuve n'existe à ce jour. Seul point positif pour l'ONU, le programme humanitaire a sans aucun doute permis de sauver de nombreuses vies en Irak. Mais dans le même temps, le rapport dit qu'il est urgent de réformer l'organisation en déchargeant Kofi Annan de tâches administratives trop pesantes. Un système de contrôle indépendant devrait aussi être mis en place avec une transparence financière accrue. Le secrétaire général de l'ONU répond que ce rapport fait, je cite, « jaillir une lumière crue sur les recoins les moins reluisants de notre organisation ». Fin de citation. Et il veut s'en servir comme argument pour imposer la rénovation d'une institution vieillissante lors d'un sommet sans précédent qui se tient les 14, 15 et 16 septembre et qui vont rassembler à New York plus de 170 chefs d'État et de gouvernement.
Je pense que si nous ne réformons pas le Conseil de sécurité, avec le temps, il perdra son influence et sa légitimité. La situation est déjà compliquée. Il ne faudrait pas arriver à un stade où les pays émergents, qu'il s'agisse de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud ou d'autres, se demande pourquoi devons-nous accepter les décisions de ce conseil, cette entité non représentative. Les membres permanents et les principaux acteurs doivent bien réfléchir et accepter de céder un peu de pouvoir afin de rendre plus significative la participation des autres pays et permettre une vraie coopération internationale. S'ils n'y parviennent pas, nous entrerons dans une situation de compétition destructrice et la légitimité du Conseil serait en danger. Selon moi, les membres permanents devraient considérer le Conseil de sécurité comme le comité exécutif de notre mécanisme de défense collective. Ils doivent travailler au nom de tous. Mais au fil des années, ils ont eu tendance à plus tenir compte des intérêts nationaux. S'ils envisageaient vraiment ce que nous faisons en 10 ans, nous agissons au nom du monde entier, pas pour un pays en particulier, ni pour l'intérêt d'un pays, l'attitude serait différente.
Si le monde retient surtout dans l'action diplomatique de Kofi Annan les crises en Irak, les Africains n'oublient pas son implication dans les guerres qui, dans le même temps, secouent le continent de part en part, mais qui ne bénéficient pas du même intérêt dans la presse internationale.
Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État.
J'engage toute la population à se tenir mobilisée à tout instant. Dans quelques jours, j'inviterai d'ailleurs toute la population à un grand rassemblement pour montrer que les démocrates et les républicains sont debout. Parce que dans ce pays, il faut qu'une fois pour toutes, on sache qui est qui et qui veut quoi. Il faudra qu'on ait d'un côté ceux qui sont pour la démocratie et la République, et que de l'autre côté, ceux qui sont contre la démocratie et la République, et que la bataille s'engage.
S'ils veulent faire une guerre psychologique, nous on est prêts. Si c'est une guerre armée, nous on est prêts. Si c'est pour négocier, nous on est prêts. Maintenant, s'ils veulent négocier, la première condition que nous demandons, qu'ils retirent tous ces gars sur Abidjan. Nous on fait une colonne, tout, avec toutes nos armes, on descend sur Abidjan. S'ils veulent, ils choisissent une caserne avec la sécurité. Nous on rentre, on dépose les armes, on discute.
Le 19 septembre 2002, des soldats et des rebelles du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire tentent de contrôler les villes d'Abidjan, Boaké et Korogo, alors que le président Barbo se trouve à l'extérieur du pays.
Scène de ratissage ce matin à Boaké. Nous sommes à l'entrée ouest de la ville où les affrontements les plus violents se sont déroulés hier. Les mutins traquent des éléments de l'armée ivoirienne qui se seraient infiltrés. Ils fouillent chaque maison. Mieux vaut ne pas être suspect.
Malaga, avancez ! On est là pour ça, dans notre pot de bois là.
Hier soir, les rebelles ont pris possession de la ville. On les voit au carrefour stratégique, ils patrouillent en permanence, mais leur présence ne suffit pas à rassurer la population.
Nous sommes des Ivoiriens, on ne peut pas tirer sur nos frères Ivoiriens civils. On ne peut pas. Nous voulons un affrontement avec les militaires. On ne peut pas. Hein ?
C'est le début d'une crise qui va littéralement couper la Côte d'Ivoire en deux. Et si dans un premier temps on y voit une tentative de putsch orchestrée par le général Robert Gaye, injustement assassiné dans ses premières heures, la vérité est beaucoup plus complexe. Les acteurs sont nombreux, les intérêts divers. Les Nations Unies vont intervenir dans cette crise qui démarre. Kofi Annan, le Ghanéen, l'enfant du pays frère voisin, va avoir besoin de ses grandes qualités de diplomate pour éviter aux forces qu'il déploie dans le pays de s'embourber dans la lagune ébriée, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Le premier secrétaire général noir de l'ONU doit aussi faire face à la crise au Soudan, un terrain tout aussi miné. Rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer tout cela. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.